Bienvenue dans Au-delà du sport, votre rendez-vous mensuel pour explorer tout ce que le sport raconte d'humain, de beau et parfois de bouleversant. Chaque mois, on prendra le temps d'aller plus loin que le score, plus loin que la médaille, pour comprendre ce que le sport dit de nous, de notre culture, de nos émotions et de nos rêves collectifs. Parfois, on parlera de courage, parfois de transmission, de dépassement ou de mémoire. Parce qu'au fond, le sport, ce n'est pas qu'une histoire de victoire, c'est aussi un miroir de la vie. Et pour cette toute première émission, j'ai voulu commencer par ce qui fait battre le cœur de tous les supporters. Les plus grands exploits du sport français. Ces instants suspendus, où l'on se dit que oui, l'impossible est parfois français. J'aurais pu vous parler de la victoire des Bleus en 1998, de la Marseillaise de Renaud Lavillenie après son record du monde, ou des 10 ans de gloire de Teddy Riner. Ou même encore de la domination des experts du handball. Mais aujourd'hui, c'est vers 3 autres histoires que je me tourne. 3 exploits, 3 émotions, 3 visages. D'abord, la grâce et la puissance de Marie-Josée Pérec, la gazelle d'Atlanta. Puis, la folie et le courage du 15 de France face aux All Blacks en 1999. Et enfin, la constance et la perfection de Martin Fourcade, l'homme qui a transformé toute sa carrière en exploit. 3 moments où la France a brillé. 3 façons d'aller, justement, au-delà du sport. Atlanta, été 1996. Il fait chaud, très chaud. Sur la piste du Centennial Olympic Stadium, une Française s'apprête à écrire l'histoire. Marie-Josée Pérec, la gazelle, la reine du tour de piste. 4 ans plus tôt, à Barcelone, elle avait déjà offert à la France l'or sur 400 mètres. Mais cette fois, le défi est encore plus grand. Non seulement défendre son titre, mais tenter un pari insensé. Le doublé, 200 mètres, 400 mètres. 2 distances, 2 mondes et 2 efforts. Le 29 juillet 1996, finale du 400 mètres. Le stade entier retient son souffle. Marie-Jo s'élance. Aérienne, casque silencieuse, sa foulée, ample et fluide, semble défier la gravité. Elle reste en contrôle total, sans un regard pour ses rivales. À 200 mètres, elle est déjà devant. Quand vient la dernière ligne droite, elle accélère encore. Un sprint parfait. 48 secondes 25 à l'arrivée. Record olympique. Et elle conserve son titre. Mais Pérec ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, elle s'aligne sur le 200 mètres. Cette fois, face à elle, Merlène Otey, l'une des plus grandes sprinteuses de tous les temps. Le coup de feu ressenti. Pérec part fort. Le virage est un chef-d'œuvre d'équilibre. Dans la dernière ligne droite, Otey revient. Mais Marie-Jo résiste. Les mâchoires serrées. Le regard fixé sur la ligne. 22 secondes 12. Elle coupe la ligne en tête. L'or, encore. Le doublé est fait. Un doublé 200-400 mètres. Aucune femme avant elle n'avait réussi, et qu'aucune ne refera après. Sur le podium, drapeau sur les épaules, Marie-Josée Pérec esquisse un sourire timide. Mais dans son regard, on lit tout. La fierté, la force, la solitude aussi. Ce soir-là, à Atlanta, elle n'a pas simplement gagné, elle a incarné la grâce, la puissance et le dépassement. Une légende française. Une étoile éternelle de l'athlétisme mondial et un exemple pour les plus jeunes. La France, c'est ainsi des exploits individuels, mais aussi de nombreux exploits collectifs, comme le 31 octobre 1999, à Twickenham, en Angleterre. Lors des demi-finales de la Coupe du Monde de rugby, les Bleus affrontent les All Blacks, les géants, les invincibles et surtout Lonal Omu, la terreur du tournoi. Sur le papier, il n'y a pas photo. La Nouvelle-Zélande écrase tout sur son passage. La France, elle, sort d'un tournoi poussif et personne, absolument personne, ne la voit gagner. Et pourtant, dès les premières minutes, les Bleus montrent autre chose. De la combativité, de la solidarité, du panache. Mais à la mi-temps, ils sont menés 17 à 10. Lomu a encore frappé. On pense alors que tout est joué. Puis, un éclair. Un nom. Christophe Dominici. Sur une relance folle, elle récupère un ballon, file le long de la ligne et va marquer. Le stade explose. Les Français y croient à nouveau. Et là, l'impensable se produit. Une furie bleue, une inspiration collective, la maison ajuste, fenêtre, marque, enchaîne, les passes s'enchaînent, les All Blacks sont dépassés. Ils ne comprennent plus. C'est un tourbillon. En 20 minutes, la France inscrit 3 essais. Le rugby devient art, une panache de la folie pure. Un match où tout s'inverse, où le plus petit terrasse le plus grand. Score final, 43-31. Les Bleus ont gagné. Le 15 de France a renversé les All Blacks. Un choc planétaire. Même les Néo-Zélandais, fair-play, saluent l'exploit. Mais ce qu'on retient surtout, c'est l'état d'esprit. La manière, ce sentiment, quand c'est 31 octobre 1999, les Bleus n'ont pas seulement gagné un match. Ils ont incarné une idée du rugby, celle du jeu, du courage et de la liberté. Ce soir-là, on redécouvre le French flair, ce style typiquement français, imprévisible, inspiré, où tout peut arriver, où le collectif devient poème. On y retrouve cette touche de folie. Ce goût du risque, c'est fait d'un ballon ovale, qui roule jamais droit. Et c'est tant mieux. Dans les tribunes, les supporters français pleurent, rient, s'embrassent. Personne n'ose y croire. Dominici, minuscule face au colosse néo-zélandais, devient un symbole. Celui du joueur qui ne lâche rien. Celui qui joue avec le cœur, plus qu'avec le corps. Sa joie, son visage, illuminé. Son maillot, tombé de sueur, autant d'images gravées dans la mémoire collective. Et puis, il y a la maison, le métronome. Il transforme, il tape, il dirige le jeu. Un chef d'orchestre, calme, au milieu de la tempête. Autour de lui, Bernard Salle, Ntamack, Ibanez, tous livrent une partition parfaite. Les All Blacks, eux, sont tétanisés. Leur machine implacable se dérègle. Ils ne comprennent plus. Le haka a tremblé, et dans leur regard à la fin, il y a du respect. Celui qu'on accorde à ceux qui ont su défier les lois du possible. Ce jour-là, le rugby français a montré son visage. Un pied visible, courageux, flamboyant. Un rugby de création, de mouvement, de panache. Un rugby qui parle au cœur. Cette demi-finale restera comme un sommet. Parce qu'au-delà du score, elle dit quelque chose de nous. De cette capacité française à se transcender. On parle souvent du sport comme un miroir de la société. Eh bien, ce jour-là, la France du rugby nous a offert un reflet magique, celui d'un peuple capable d'unir ses forces, d'imaginer l'impossible et de le réaliser tous ensemble. Et même si, une semaine plus tard, les Bleus s'inclinent en finale contre l'Australie, personne ne retient la défaite. Parce qu'un exploit, ce n'est pas toujours une médaille d'or. Parfois, c'est une émotion, une étincelle qui dure toute une vie. Ce soir d'octobre 1999 restera comme un moment suspendu. Le jour où la France a prouvé que la foi, le cœur et la passion peuvent parfois faire plier les dieux du rugby. Pour ce dernier exemple, on quitte les stades et la pelouse et on glisse maintenant vers la neige. Vers le froid, le silence et la précision. Vers un homme qui n'a pas brillé sur un jour, mais sur toute une décennie. Un exploit long, patient, méthodique, fait de régularité, d'exigence et d'élégance. Monsieur Martin Fourcade. Le biathlon, c'est un sport à part. Un équilibre fragile entre effort et maîtrise. Entre les pulsations du cœur qui explosent à 180 et la respiration qu'il faut soudain calmer, pour tirer droit sur une cible grande comme une pièce de 2 euros. Une erreur et tout s'écroule. Un 10, tout recommence. Les Fourcades, c'est la perfection. Une mécanique humaine, réglée au millimètre. Mais derrière cette rigueur, il y a un homme profondément humain, habité par le doute, mais porté par la volonté Né à Céré, dans les Pyrénées, il grandit entre montagnes et pistes de ski, au sein d'une fratrie de sportifs. Son frère Simon, déjà biathlète. Très vite, Martin se distingue par son mental d'acier, par cette envie de comprendre chaque détail, de repousser chaque limite. 2010, Vancouver. Il n'a que 21 ans. Il décroche l'argent. Et le monde découvre ce regard calme, presque froid, qui cache une détermination brûlante. Puis vient Sochi, en 2014. Deux titres d'or. Le biathlon français entre dans une autre dimension. Fourcade devient un modèle. Rien n'est laissé au hasard. Le matériel, la préparation, le tir, la récupération, tout est pensé, mesuré, perfectionné. Mais c'est en 2018, à Pyeongchang, qu'il devient un monument. Trois nouvelles médailles d'or, une pression immense, avec un sang-froid presque irréel. Et surtout, cette capacité à rebondir, à se reconstruire après un échec. Au total, 7 médailles olympiques, 83 victoires en Coupe du Monde, 7 globes de cristal.
On vit un rêve, tout simplement, un rêve éveillé. Et Martin Fourcade va le poursuivre pour sa toute dernière coupe. 5 titres olympiques, 13 titres mondiaux, un record de 7 gros globes, 26 petits globes. Et cette image absolument somptueuse entre Martin Fourcade et la relève, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Eh bien, on peut le dire, Manon et Inès, aujourd'hui, peuvent être très très fiers de leur papa.
Des chiffres vertigineux. Mais au-delà des statistiques, il y a un style, un engagement, une philosophie. Fourcade n'a jamais été un champion distinct. Il a souvent pris la parole, défendu ses valeurs, parlé de dopage, de respect, d'équité. Il a voulu un sport propre, exigeant, juste. Et c'est aussi pour ça qu'on l'admire. Puis vient mars 2020, sa dernière course en Finlande, une dernière ligne droite. Une dernière cible. Il tire, couche et s'impose encore. La boucle est bouclée. Il s'arrête au sommet. Sans éclat, sans effet. Juste un salut simple, ludique, quasiment silencieux. Un adieu à son image. Précis, juste, élégant. Martin Fourcade, c'est la France du travail, du sérieux, de la rigueur. Mais aussi celle du cœur, de la sincérité et du respect. Un champion total qui a incarné la constance autant que les dépassements. Et aujourd'hui, encore, chaque hiver, dans les stations de ski ou devant une télé, des enfants rêvent d'imiter son geste, de viser juste, de glisser vite, de porter le bleu, blanc, rouge avec la même dignité, le même amour. Alors oui, sa carrière tout entière est un exploit, parce qu'elle n'est pas faite d'un moment, mais de centaines. Puisqu'elle parle du temps, de l'effort, de la fidélité à soi-même, qu'elle prouve qu'on peut gagner sans arrogance et s'effacer sans bruit. Martin Fourcade n'a pas seulement marqué le biathlon, il a marqué le sport français à vie. Alors, lors des JO qui arrivent cet hiver, un manque sera présent, comme depuis sa dernière course en 2020. Alors voilà, trois histoires, trois visages, ma façon d'aller au-delà du sport. Marie-Josée Pérec, la grâce, le geste parfait, le dépassement absolu d'une femme seule sur la piste. Le 15 de France, la folie, la puissance du collectif, la beauté de croire encore quand tout semble perdu. Et Martin Fourcade, la constance, le travail patient, silencieux. L'exigence comme philosophie de vie. Trois héros, trois époques, mais un même fil rouge, celui du dépassement. De ces moments où les frontières du possible semblent s'effacer, sous la force du travail. Et des histoires comme celle-là, le sport français en regorge même aujourd'hui. Des exploits qui, chacun à leur manière, ont marqué notre mémoire collective. On pourrait parler de Léon Marchand, le prodige de la natation, qui, à seulement 21 ans, a fait tomber un record du monde vieux de 15 ans, celui du grand Michael Phelps, un jeune Toulousain calme, souriant, qui nage pour le plaisir, qui, sans frime, sans grand discours, fait à nouveau flotter le drapeau tricolore tout en haut du monde, et pas qu'une fois. On pourrait aussi évoquer Teddy Riner, le Bénin, au cœur immense, 10 fois champion du monde, 2 fois champion olympique, et toujours debout, toujours humble, un colosse qui a fait du respect, de la maîtrise et du sourire, les armes d'un combattant de nos jours. Ou même Tony Estanguet, le kayakiste aux 3 médailles d'or olympiques, qui a su, une fois sa carrière terminée, prendre la pagaie du destin collectif, en portant le projet des Jeux de Paris 2024. Et comment ne pas citer Zinedine Zidane, son coup de tête au destin, sa vision du jeu. Et cette nuit de juillet 1998, où la France entière a vibré à l'unisson. Une médaille, une étoile qui a rendu la France heureuse. Là encore, plus qu'un trophée, c'était une émotion, un sentiment d'unité, un instant suspendu, où le sport avait dépassé le cadre du terrain. Des exploits donc, mais surtout de nombreuses histoires humaines. Parce qu'au fond, ce qui nous touche, ce n'est pas seulement la victoire, c'est tout le chemin. L'appréhension avant le départ, la solitude du coureur dans son couloir, la tension du tir, le dernier mètre à franchir, la larme au coin de l'œil, la famille qui regarde, et ce moment fugace, où tout s'arrête. Ces instants-là ne sont que nos madeleines sportives. Ils nous rappellent que l'humain, quand il croit en quelque chose, peut repousser toutes les limites. Ce n'est pas seulement la performance, c'est ce qu'elle raconte sur nous qui est le vrai sens du sport. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode d'Au-delà du sport. Le mois prochain, on repartira ensemble pour une nouvelle aventure sportive, entre émotions, héros et moments de légende, là où le sport français et mondial nous réunit tous